J'espère trouver de cette manière ce que nous cherchons. Si notre état est bien constitué, il doit avoir toutes les vertus. Nécessairement, Socrate. Il est évident qu'il a la prudence, le courage, la tempérance, la justice. Oui, Socrate. Quelles que soient celles de ces vertus que nous trouvions en lui, le reste sera ce que nous n'aurons pas trouvé. Sans contredit. Si de quatre choses nous en cherchions une, et que celle-là se présenta d'abord à nous, nos recherches seraient finies. Et si nous connaissions d'abord les trois premières, nous connaîtrions par là même celles que nous cherchons. Car il est évident que ce ne pourrait plus être que celles qui restent à trouver. Tu as raison. Et ne devons-nous pas procéder ainsi dans notre recherche, puisque les vertus dont il s'agit sont au nombre de quatre. Nous le devons, Socrate. À mon avis, alors, ce qui se montre d'abord à nous dans cette affaire, c'est la prudence. Mais elle semble marquée d'un caractère singulier. Lequel? Dans notre état, il y a prudence, car il y a bon conseil, n'est-ce pas? Oui, Socrate. Il est clair aussi que là où est le bon conseil, il y a science, car ce n'est point l'ignorance, mais la science qui fait prendre de sages mesures. Cela est clair. Mais il y a dans l'état une grande diversité de sciences. Sans doute, Socrate. Est-ce pour la science des architectes que l'État passera pour prudent et de bon conseil? Non. Avec cette science, il passera seulement pour habile en architecture. Ce n'est pas non plus pour la science de la menuiserie et en délibérant sur la manière de fabriquer le mieux possible des ouvrages de ce genre que l'État se fera un renom d'habileté. Non, Socrate, bien sûr. Ni pour la science qui se rapporte aux ouvrages en airain ou en quelque autre métal. Pas davantage. Ni pour celle qui s'occupe de la reproduction des biens de la terre. Cette science ne lui donnera de réputation qu'en agriculture. Apparemment. Dis-moi maintenant alors. Est-il dans l'état que nous venons de former une science particulière à quelques-uns de ses membres, dont l'objet soit de délibérer non sur quelques parties de l'état, mais sur l'état tout entier, pour régler le mieux possible tant son organisation intérieure que ses rapports avec les autres états? Sans doute, il en est une. Quelle est cette science et dans quel citoyen réside-t-elle? C'est la science qui garde l'État, et elle réside dans ceux des magistrats que nous appelions les véritables gardiens de l'État. Comment appelles-tu l'État en tant qu'il possède cette science? Prudent dans ses conseils, est vraiment habile. Crois-tu qu'il y ait dans notre état plus de forgerons que de véritables gardiens? Il y a beaucoup plus de forgerons, Socrate. En général, de tous ceux qui exercent une profession et qui en reçoivent une dénomination particulière, les moins nombreux ne seront-ils pas les gardiens de l'état? Oui, certes, Socrate. Par conséquent, c'est au corps le moins nombreux, à la plus petite partie de lui-même et à la science qui y réside. C'est enfin à ce qui est à sa tête et le gouverne que l'État, constitué naturellement, doit sa prudence. Et c'est naturellement aussi à ce qu'il semble, la classe de beaucoup la moins nombreuse que celle des hommes à qui il appartient de se mêler de cette science, seule digne, entre toutes les autres, du nom de prudence. Cela est très vrai. Ainsi, nous avons trouvé, je ne sais comment, une des quatre choses que nous cherchions, et en quelle partie de l'État elle réside. Pour moi, du moins, elle me paraît suffisamment trouvée. Quant au courage, il n'est pas bien difficile de découvrir ce qu'il est en lui-même, ni la partie de l'État où il réside, et qui donne à l'État la réputation de courageux. Comment? Pour dire si l'État est lâche ou courageux, faut-il considérer autre chose que la partie des citoyens chargés de le défendre et de combattre pour lui? Non. Que les autres citoyens soient lâches ou courageux, cela ne fait pas que l'État soit l'un ou l'autre. À la bonne heure, oui. L'État est donc courageux par une partie de lui-même, et cela parce que cette partie possède la vertu de conserver invariablement sur les choses qui sont à craindre l'opinion que le législateur en a donnée dans l'éducation. N'est-ce pas là ce que tu appelles courage? Je n'ai pas bien compris ce que tu viens de dire. Répète-le. Je dis que le courage conserve. Quoi? L'opinion que les lois ont donnée par le moyen de l'éducation sur les choses qui sont à craindre. J'ai ajouté que le courage conserve invariablement cette opinion, parce qu'en effet, il la conserve sans jamais l'abandonner, dans la douleur, le plaisir, le désir et la crainte. Mais, si tu veux, je vais expliquer ceci par une comparaison. Je le veux bien, oui. Tu sais que les teinturiers, lorsqu'ils veulent teindre la laine en pourpre, choisissent d'abord, parmi les laines de diverses couleurs, celle qui est blanche. Ensuite, ils la préparent avec beaucoup de soin, afin qu'elle prenne la couleur dans tout son éclat. Après quoi, ils la teignent. Ainsi préparée, la teinture ne passe jamais. Et l'étoffe, soit qu'on la lave à l'eau simple ou à la lessive, a toujours le même éclat. Au lieu que si l'on emploie des laines d'une autre couleur, ou même la blanche sans la préparer, tu sais ce qui en résulte. Oui, oui, Socrate. Une couleur qui passe et qui est désagréable. Eh bien, imagine-toi que nous avons entendu faire la même opération de notre mieux, en choisissant les guerriers avec tant de précautions, et en les préparant par la musique et la gymnastique. Conçois-le bien. Nous n'avions en vue que de leur faire prendre la meilleure teinture des lois, et grâce à la bonté de leur éducation ainsi que de leur naturel, de rendre si solide leur opinion sur ce qui est à craindre, comme sur tout le reste, qu'elle pût résister aux drogues les plus fortes, aux plaisirs, détergents plus redoutables que le nitre et toutes les lessives, à la douleur, à la crainte, au désir, les dissolvants les plus énergiques. Cette force, qui conserve toujours l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre ou ne pas craindre, je l'appellerai courage, si tu n'es pas d'un autre avis. Je n'en ai pas d'autre, Socrate, car il me paraît que lorsque l'opinion qui fait le courage n'est pas le fruit de l'éducation et qu'elle a un caractère brutal et servile, tu ne la regardes pas comme légitime et tu l'appelles tout autrement que courage. Ce que tu dis est parfaitement vrai. J'admets donc ta définition du courage. Admets aussi que le courage est une vertu politique, et tu ne te tromperas pas. Mais nous en parlerons mieux une autre fois, si tu veux. Car ce n'est pas, pour le moment, le courage que nous cherchons, mais la justice. Il me semble donc que nous en avons dit assez. Tu as raison, Socrate. Il nous reste encore deux choses à découvrir dans notre état. La tempérance et enfin la justice, à laquelle se rapportent toutes nos recherches. Oui. Comment pourrions-nous découvrir la justice sans nous occuper d'abord de la tempérance? Je n'en sais rien, Socrate, mais je serais fâché qu'elle se découvrît à nous la première, puisqu'alors nous ne nous mettrions plus en peine d'examiner la tempérance. Ainsi, tu m'obligeras de commencer par celle-ci. J'aurais grand tort de n'y pas consentir. Examine donc la tempérance. C'est ce que je vais faire. Autant que je puis voir d'ici, ce qui distingue la tempérance des deux vertus précédentes, c'est qu'elle ressemble davantage à une espèce d'accord et d'harmonie. Comment cela? La tempérance est une manière d'être bien ordonné. Et comme on dit, un empire qu'on exerce sur ses plaisirs et ses passions. De là, vraisemblablement, l'expression, que je n'entends pas trop, être maître de soi-même. Et encore d'autres expressions qui mettent comme sur la trace de cette vertu. N'est-ce pas? Oui, soit. Cette expression, maître de soi-même, n'est-elle pas ridicule? Celui qui est maître de lui-même serait alors son propre esclave. Et celui qui est esclave de lui-même serait son maître, car c'est toujours à la même personne que se rapportent toutes ces dénominations. Assurément, Socrate. Mais voici, je pense, le vrai sens de cette expression. Il y a dans l'âme de l'homme deux parties, l'une meilleure, l'autre moins bonne. Quand la partie meilleure domine la partie moins bonne, on dit de l'homme qu'il est maître de lui-même. Et c'est un éloge. Mais quand, par le défaut d'éducation ou par quelque mauvaise habitude, la partie moins bonne envahit et subjugue la partie meilleure, alors on dit de l'homme, en manière de reproche, qu'il est esclave de lui-même et intempérant. Cette explication semble juste. Considère maintenant le nouvel état, et tu y trouveras l'un de ces deux cas. Tu pourras l'appeler avec raison maître de lui-même. Si partout où le meilleur commande au moins bon, on doit dire qu'il y a tempérance et empire sur soi-même. En considérant notre état, je vois que tu dis vrai. Ce n'est pas cependant qu'on n'y trouve pas une multitude de passions, de plaisirs et de peines dans les femmes, les esclaves, et la plupart de ceux qui appartiennent à la classe appelée libre, et qui ne valent pas grand-chose. Tu as raison, oui. Mais pour les sentiments simples et modérés, fondés sur l'opinion juste et gouvernés par la raison, on ne les rencontre que dans un petit nombre de personnes qui joignent à un excellent naturel une excellente éducation. Cela est vrai. Ne vois-tu pas aussi que dans notre état, les désirs de la multitude, composés d'hommes vicieux, seront dominés par les désirs et la prudence des moins nombreux, qui sont aussi les plus sages. Je le vois, oui. Si donc on peut dire d'un état qu'il est maître de ses plaisirs, de ses passions et de lui-même, on doit le dire de celui-ci. Certainement, Socrate. Et ne peut-on ajouter que par tous ses motifs, il est tempérant? Oui. Et s'il est quelque état où magistrats et sujets ont la même opinion sur ceux qui doivent commander, c'est le nôtre. Que t'en semble? Je n'en doute pas, Socrate. Lorsque l'État présente cet accord, en qui diras-tu que réside la tempérance? Dans ceux qui commandent ou dans ceux qui obéissent? Dans les uns et dans les autres, Socrate. Tu vois que notre conjecture était bien fondée. Lorsque nous comparions la tempérance à une espèce d'harmonie. Que veux-tu dire, Socrate? Il n'en est pas de la tempérance comme de la prudence et du courage qui, bien qu'ils résident dans une seule partie de l'état, le rendent néanmoins prudent et courageux. La tempérance n'agit point ainsi, mais répandue dans tout le corps de l'état. Elle établit entre les classes les plus puissantes, les plus faibles et celles qui sont intermédiaires, un accord parfait sous le rapport de la prudence, de la force, du nombre, des richesses, ou de quelque autre chose que ce puisse être. De sorte qu'on peut dire avec raison que la tempérance est cet accord même. Cette harmonie naturelle de la partie inférieure et de la partie supérieure, pour s'entendre sur celle des deux qui doit commander à l'autre, qu'il s'agisse d'un état ou d'un individu. Je suis tout à fait de ton avis, Socrate.